BFM Radio. BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange et Laurent Valdiguier.
Dimanche 20 avril, il est 13h. Bienvenue dans Affaire suivante numéro 293. Nous sommes 10 jours après la disparition d'Agathe à Vivonne, dans la Vienne. Affaire suivante fait le point sur le mystère toujours entier. Les recherches sur le terrain ont été stoppées jeudi, mais une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration est ouverte pour renforcer les moyens d'investigation et tenter de retrouver la joggeuse âgée de 28 ans. La liste des horreurs commises par Dominique Pellicot va-t-elle encore s'allonger? Déjà condamné à 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme Gisèle, le père de famille est au cœur d'une nouvelle enquête depuis fin 2022. Il est notamment mis en examen pour le viol et le meurtre de Sophie Narme, la jeune femme dont l'exhumation a été refusée par la justice cette semaine. Et puis, il a été le patron de la prestigieuse BRI, il est directeur de la Brigade de protection des mineurs de Paris. Il, c'est Christophe Molmy. Il publie un nouveau roman, Comme un papillon, un roman noir qui explore toutes les facettes d'une même histoire, celle d'un violeur qui pensait qu'il ne pouvait pas tomber. Christophe Molmy est l'invité d'affaire suivante qui débute maintenant.
BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange et Laurent Valdiguier.
Bonjour Laurent. Ravi de vous accueillir et de partager cette heure avec vous. L'affaire de la semaine qui est résumée quasiment en une seule question. Qu'est-il arrivé à Agathe Hilleret 10 jours après la disparition de la joggeuse de 28 ans à Vivonne dans la Vienne? La question reste posée. Les recherches ont été stoppées jeudi après un dernier ratissage. Disparition volontaire, accident, mauvaise rencontre. Une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration est désormais ouverte. Pierre-Luc Bousset.
À la une de la presse locale dans ce bar-tabac de Vivonne, un nom, un mystère, et pour les habitants, beaucoup d'émotions.
Je suis touchée parce qu'on se met à la place de la famille. Je vous dis, nous aussi, on a des enfants, des petits-enfants.
Est-ce qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est décédée? On ne sait pas.
Des jours durant, les gendarmes ont fouillé, quadrillé, ratissé les champs et les bois aux alentours de Vivonne. À la recherche d'Agathe Hilleret, une joggeuse de 28 ans. Partie du domicile de son père le 10 avril pour faire son footing, elle n'est jamais revenue à la maison, n'a plus donné de nouvelles depuis. Habituée à courir sur des distances de 10 voire 20 km, Agathe connaît bien ses forêts, ses sentiers de terre qu'elle a souvent parcourus. Une zone parfois mal fréquentée, selon Didier, qui la traverse souvent à VTT.
Qu'il y en a beaucoup qui viennent là sur des motocross, donc voilà... Et quand vous tombez sur un groupe, vous vous sentez tout seul, vous n'êtes pas en sécurité. Et moi, je conseille pour tous les sportifs qui roulent là de ne pas le faire tout seul.
Une question taraude les enquêteurs depuis. Qu'est-il arrivé à Agathe? En plus de l'hypothèse de la mauvaise rencontre, d'autres pistes ont été étudiées. Cette jeune femme décrite comme fragile et réservée aurait-elle choisi de fuir volontairement? Elle avait en tout cas prévu de se rendre à une fête d'anniversaire quelques jours après sa disparition. Aurait-elle fait un malaise ou chuté lors de sa course? Les gendarmes ont déjà passé la zone au peigne fin. Des battues ont été organisées. Un hélicoptère ainsi que des plongeurs ont été mobilisés. En vain. Des fouilles de terrain qui ont pris fin jeudi dernier. Une vingtaine d'enquêteurs poursuivent les investigations pour espérer lever le mystère.
Voilà, le décor est planté. Laurent Valdiguier, nous allons installer et accueillir ensemble Bernard Boulou. Bonjour. Vous installez en direct, just in time, comme on dit en anglais. Merci d'être sur le plateau d'affaires suivantes. Vous êtes avocat spécialiste des affaires de disparition. À vos côtés, Johanna Rosenblum. Bonjour Johanna.
Bonjour Ronald.
Psychologue clinicienne et consultante BFM TV. Pour terminer les présentations, Jacques-Charles Fourbonne. Bonjour. Général bonjour. De gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. Laurent, on dit souvent, dans une affaire de disparition, on est 10 jours après, oui. On dit souvent les 48 premières heures, c'est l'essentiel, c'est là que tout joue. Après, on rentre dans une autre dimension.
Oui, c'est déterminant au début parce que c'est, vous savez, souvent c'est les petites caméras de vidéo. Bernard Boulou qui a suivi l'affaire Le Landais se souvient de la caméra de la pharmacie qui avait permis dans la nuit d'identifier un petit corps, une petite robe blanche à l'avant de la voiture. Et c'est vrai que ces caméras de vidéosurveillance, que ce soit la boulangerie, la pharmacie ou autre, elles s'effacent en général tout les 24 heures ou les 48 heures. Donc pour ça, c'est très important de sécuriser ça. C'est très important, évidemment, les téléphones. Alors les téléphones, les enquêteurs, ils ont plus longtemps, ils ont un an pour les téléphones et les bornes. Mais c'est vrai que tout témoignage, même fugace, d'une voiture, d'une silhouette, etc., bah, plutôt les gendarmes les recueillent, enfin, les policiers, mieux c'est.
Bernard Boulou, sur ces premières heures qui sont souvent, pas forcément cruciales, mais qui sont essentielles et très importantes sur ces disparitions, comment vous expliquez et comment vous l'analysez ?
Alors, Maurice Cusson, qui est un grand criminologue canadien, disait toujours que le temps, c'est l'ennemi de l'enquête. Hein. Donc, les 48 premières heures...
Ça fait sourire votre voisin. Oui.
Il faut agir dans les 48 premières heures, et Laurent Balliguet le sait, je me bats pour ça, contre ça, même ce fameux délai de 48 heures qui est donné par certains enquêteurs. Attendez 48 heures, on verra ce qui se passe après. C'est faux, c'est vraiment dans les 48 premières heures qu'il faut récolter, comme le disait Laurent, le maximum d'éléments pour pouvoir ensuite s'en servir plus tard, comme on a fait pour Nordal Hollandais, le caporal noyé. On s'en est servi 7 mois après, et là au moins, là, c'est vite, tout de suite, les premiers jours qu'il faut agir.
Les vidéos, il y a aussi les témoignages, j'imagine que plus on est proche d'un événement, mieux on s'en souvient. On pourra poser la question.
Oui, absolument, mais c'est valable pour tous les éléments de l'enquête. Ouais. Si vous interrogez le soir même ou le lendemain des témoins, sachant déjà que la fiabilité du témoignage elle est extrêmement faible, vous avez une chance que les gens ne se trompent pas dans la chronologie. Puis autre chose aussi dans les 48 premières heures, c'est qu'on a une chance de retrouver la personne vivante, tout simplement. C'est-à-dire que ça peut être une chute, ça peut être un accident, elle est partie sans eau, elle est partie sans nourriture. 48 heures, on a une grosse chance. Ouais. À partir du moment où ces 48 heures sont passées, là, ça devient effectivement beaucoup plus difficile.
C'est vrai que les témoignages, c'est toujours quelque chose de compliqué à recueillir. Parce qu'on a toujours un biais de confirmation. Chacun veut avoir une réponse, chacun veut apporter de l'aide, chacun se sent aussi sous pression pour essayer d'apporter des éléments de compréhension. Et donc, on va avoir tendance, si la question est un petit peu suggestive, à aller dans le sens de l'interrogatoire. Et ça peut créer des confusions au moment de la récolte des interrogatoires et des différents témoignages.
C'est vrai qu'après l'arrestation de Lelandais, justement, il y avait eu les avocats, Maître Boulou et les autres, avaient récolté les disparus. On avait parlé des disparus des Alpes, il y avait une trentaine. Ce qui est stupéfiant, Ronald, c'est à quel point, et alors là, on est en plein là-dedans avec Agathe, les gens se volatilisent. Les gens se volatilisent comme une bulle de savon, il n'y a rien. Dans le cas d'Agathe, mon général, c'est un peu ce qui se passe.
Ah, il n'y a absolument rien. Manifestement, je crois qu'il y a eu 198 témoignages.
J'ai 178, je
crois. 178, c'est possible. Ce qui est quand même tout à fait considérable, si on considère que c'est une ville de 4500 habitants, qu'elle va courir dans les bois, il n'y a pas énormément de monde, c'est pas la sortie des Galeries Lafayette. Aucune scène d'infraction, crime ou kidnapping. Manifestement, dans cette zone-là, encore moins de caméras vidéo. Et puis, son portable qui borne, mais finalement, assez peu de temps après sa disparition.
C'est pas juste parce que ça avance, elle va courir, elle a son portable qui est sur son bras ou sa main.
Comme tous les gens qui courent pour avoir tous les éléments de la course.
Donc, il borne, mais on ne le retrouve pas.
On ne le retrouve pas, et puis à un moment donné, fini d'émettre, ce qui veut dire qu'il a été démonté, qu'il a été cassé, qu'il a été jeté dans l'eau. Et il n'y a vraiment que ça, à part son profil psychologique, qui est un petit peu particulier, et qui pourrait, mais ça c'est plutôt la partie de Johanna, qui pourrait laisser à penser qu'au-delà d'une chute, au-delà d'un enlèvement, ça peut être la volonté de disparaître, la volonté de se faire du mal. Peut-être à ce moment-là, de prendre un itinéraire justement pour ne pas être retrouvée, qui soit complètement différent de celui dans lequel elle court d'habitude, et ce qui expliquerait que les recherches, malgré une ampleur rarement vue, n'ont rien donné.
Alors, c'est vrai que le téléphone, ça sera important. Ils l'ont pas tout de suite, ça, mais c'est une indication qu'ils ont grâce aux fabricants, c'est comment le téléphone s'est éteint. Dans le cas de Michel Pial, qui a été soupçonné d'avoir tué sa femme, souvenez-vous, pendant 3 mois, il avait le téléphone de sa femme en main. Et les enquêteurs avaient pu établir qu'il l'avait éteint, que ce téléphone s'allumait et s'éteignait grâce à Siri, l'application.
Siri, c'est quand on parle à son téléphone.
Voilà, parce qu'il ne savait pas l'éteindre par le système lui-même. Et ça avait donné une indication. Mais alors, ça prend du temps parce que c'est le fabricant qui a ça. Mais ça, c'est une indication importante sur la façon dont le téléphone est éteint.
Il y a aussi les applications sur les téléphones qu'il faut. Exploiter, et ça, je suppose que les gendarmes.
Quel type d'application
font.
Messagerie ou
application santé, par exemple, d'accord. Où vous calculez le nombre de pas.
Bien sûr.
Ça, exactement. Donc, ça, c'est l'application Strava, Nike, pour les gens qui courent un peu comme moi, Donc, on a tous une application, mais l'application santé avec le nombre de pas, c'est quelque chose de très important. On s'en était servi d'ailleurs dans l'affaire Lelandais, encore une fois.
Johanna, je n'ai évidemment pas vous donner une solution, mais la piste du suicide est évoquée, elle n'est pas écartée, elle n'est pas privilégiée. On parlait d'une forme de faiblesse psychologique. Mais quand on est joggeuse, partir pour mettre fin à ses jours sur le parcours que l'on emprunte tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui audible, compréhensible, crédible comme argument?
Le scénario de la femme joggeuse qui part courir et qui disparaît, malheureusement, on a l'habitude de ce scénario-là. Et en général, c'est pas des femmes qui partent se suicider. Hein. Mais alors, faut aussi rappeler que on a le droit de disparaître. Hein. Quand on est majeur, on a le droit de disparaître. Ça s'appelle le droit à l'oubli, de pas donner de nouvelles. Il y a cela aussi. Et puis il y a son profil psychologique. Je crois que cette jeune femme est atteinte d'anorexie mentale. C'est un trouble du comportement alimentaire qui est sévère. Ça rajoute à sa vulnérabilité déjà sa vulnérabilité physique parce qu'elle est extrêmement légère, donc elle est certainement vulnérable plus qu'une autre à une chute, peut-être plus fragile, à un étourdissement, je ne sais quoi. Et puis ça fait psychiquement évidemment d'elle une femme plus fragile psychologiquement, avec des souffrances mentales, peut-être des symptômes dépressifs aussi. Et là, il faudrait pouvoir se tourner vers son dossier médical si elle est suivie, vers ses proches qui peut-être l'aider dans son parcours de soins et qui pourraient apporter des éléments de compréhension.
Pourquoi on s'inquiète aujourd'hui? Quels sont les éléments qui font qu'on s'inquiète? Au-delà de la disparition en tant que telle, parce que
alors au-delà de la disparition, je dirais qu'il y a un fait social, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le mystère demeure, on est en plus dans une petite ville, les gens s'inquiètent. Si elle a été kidnappée, si elle a été agressée ou tuée, ça veut dire qu'il y a un furieux qui se promène dans les environs, qui est toujours en liberté, qui est susceptible de recommencer. Et on a besoin, toutes les sociétés à travers l'histoire ont toujours besoin d'une solution et d'être rassurées par une solution judiciaire. Je dirais à la limite, même si elle n'est pas complètement dans la vérité chronologique et d'actualité, on a besoin d'avoir une explication, on a besoin d'arrêter quelqu'un ou on a besoin de la retrouver de façon à refermer, je dirais, le dossier de l'inquiétude collective.
Ça fait penser à l'affaire de Lina, souvenez-vous, où elle avait disparu sur le chemin du train.
Alors, c'est ça. Ouais.
Mais les chiens Saint-Hubert avaient marqué un arrêt. Ouais. Vous savez à peu près à quel endroit. Ouais. Là, on n'a pas d'indication de chien.
Et c'est d'autant plus insupportable, c'est ce que vous disiez, Laurent, l'instant. Ouais. C'est-à-dire, que s'est-il passé? Il n'y a aucune piste qui puisse rassurer tout le monde au-delà de la résolution de l'enquête.
Mais en somme, ce que disait Joëlla Bernabou, c'est « moi, je cours ». C'est-à-dire qu'on se dit, on se met dans la situation. Il y a 11 très bon article de Thibaut Chevillard dans 20 minutes. 11 joggeuses tuées entre 2005 et 2017. Celles et ceux qui courent, notamment donc les femmes qui courent, se disent « mais je suis en danger, si je vais en forêt, si je vais tard, en hiver, il fait nuit à 16h, il fait nuit jusqu'à 10h du matin ». Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte à la fois dont on mène l'enquête et la psyché collective.
Oui, mais je suis même… oui. On y pense toutes quand on va courir tôt le matin, courir tard le soir ou dans des endroits un petit peu isolés. Évidemment, aujourd'hui, on pense toutes à toutes ces histoires, à toutes ces disparitions, à toutes ces femmes qui ont connu le pire parce qu'elles sont parties courir seules. Donc, on a peur d'un scénario qui se répète encore et encore. On se demande pourquoi cette jeune fille se sentait en capacité, alors qu'elle-même, un petit peu fragile physiquement, voire psychologiquement, va courir tous les jours. Ouais, c'est des vraies questions.
Catégorie de joggeuse dans les affaires de disparition, c'est une vraie catégorie, pardon pour le mais c'est une vraie un vrai profil de victime potentielle que l'on étudie différemment quand il y a disparition.
Je sais pas, c'est vrai que ça se répète assez souvent, hein, je dirais pas régulièrement, mais c'est vrai que c'est un profil j'allais dire intéressant pour certains ravisseurs de l'information, prédateurs.
C'est tellement un profil que, souvenez-vous, Jonathan Daval, qui avait tué sa femme et qui avait fait une mise en scène pour faire croire qu'elle avait été tuée par un prédateur en faisant son jogging.
Parce qu'elle ne revenait plus tard. Il s'est dit, finalement, elle met une heure, elle est au bout d'une heure et demie, deux heures, trois heures, elle n'est pas là.
Voilà. Donc, il avait fait croire aux enquêteurs qu'on était dans ce schéma criminel.
Emmenez-nous, général, notamment dans ces forêts, il y a brigades cynophiles, il y a eu des plongeurs, il y a eu un dispositif extrêmement important. Pendant 7 jours, il y a près de 200 gendarmes, sapeurs-pompiers militaires.
Des drones. Il y a eu des gens du RICM, de troupes de marine qui se trouvaient à côté, comme vous l'avez dit, les plongeurs. Certainement et obligatoirement les gens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie au cas où. Et puis les gendarmes que l'on a vu en treillis, c'est un escadron de gendarmerie mobile qui a été mis en renfort. Un escadron de gendarmerie mobile en déplacement, c'est 85 militaires. Ça permet donc d'avoir des vagues de ratissage qui soit faite de façon disciplinée, hein, parce qu'il y a souvent des gens qui veulent.
Les battus, je rappelle les battus civiques.
Voilà, les battus citoyens.
Citoyens. Hein.
Évidemment, c'est bien parce que ça permet d'avoir du monde. On parlait d'une zone de 100 km2. C'est la surface de Paris. C'est absolument gigantesque. Et puis, c'est pas la place de la Concorde, hein. C'est-à-dire que le terrain est.
On voit derrière vous ce chemin qu'elle emprunte.
Voilà, le terrain est très, très inégal et avec beaucoup de végétation. Mais il faut que ce soit fait de façon absolument méthodique. C'est-à-dire que vous avez un officier qui va quadriller le terrain carré par carré. On va prendre le nombre de gendarmes nécessaires pour qu'il y en ait un tous les 2 ou 3 ou 5 mètres si le terrain est dégagé. Et puis, on coche la case. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, dans un sens et retour, on sait qu'on l'a fait et on passe à côté.
Oui, il faut partir du principe que la nature rend toujours les corps. Un corps qui est, on va dire, bien dissimulé, ressortira toujours,
souvent.
Peut-être pas entièrement, mais par fragments, notamment par l'intervention des animaux sauvages qui vont transporter un bout de corps à tel endroit. Et on retrouvera dans quelques mois, quelques semaines, d'où l'intervention des chiens, notamment renifleurs.
Des chiens de cadavres.
Cadavres, etc.
Ça renvoie à la découverte d'une partie du crâne du petit Émile, parce qu'on savait qu'il avait été déposé, on a découvert qu'il a été déposé à un endroit, mais pas celui forcément été retrouvé, mais que le rôle de ce qu'on appelle les ravines, c'est-à-dire ces espèces de coulées naturelles avec la pluie, on sans doute
a été important. Ou du caporal noyé, que le Landais avait déposé dans un fossé et qui, en fait, le crâne a fini par rouler parce que c'est toujours le crâne qui se détache.
Ou un chien.
Le retour d'expérience des gendarmes du petit Émile, c'est justement que pour éviter les battues désordonnées, disons, ou en tout cas, faire en sorte qu'on sache très précisément quelle zone a été fouillée qui. Alors là, ils sont en train de développer l'IRCGN et le général Daoust. Ils sont en train de développer des drones couplés à des cartes pour permettre très précisément de savoir
où on
fouille. Parce qu'en réalité, souvent, tout le monde fouille, tout le monde cherche.
Ouais, oui.
Et c'est puis après, on ne sait pas. Donc, les zones exactement. Donc là, c'est
une démarche scientifique, en fait. C'est-à-dire qu'on avance lentement s'il le faut, mais on ne revient pas. On a fermé la piste, fermé la porte.
Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 48 premières heures dont on disait au début de cette émission qu'elles étaient importantes et qu'est-ce qu'on fait désormais? Parce que les opérations de ratissage, elles ont été arrêtées jeudi soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Alors, deux branches d'activité, deux actions complètement différentes dans les 48 premières heures ou au moins pendant le temps où ont duré les investigations sur le terrain. La recherche de la personne vivante, la recherche éventuellement de son corps dans la zone la plus probable, un petit peu moins probable, et puis ensuite avec une zone élargie. Pendant ce temps-là, évidemment, la section des recherches de Poitiers qui a été saisie, alors c'est pas les gens qu'on voit sur le terrain, hein, ce sont des officiers de police judiciaire, on va en section de recherche quand on a 10, 15 ans de police judiciaire derrière soi dans la gendarmerie, c'est l'embarquement de toutes les données, ce que l'on disait, les vidéos, les péages, les retraits de cartes bleues, c'est les témoignages évidemment sur le terrain, c'est l'environnement de la personne, ses amis, sa famille, son code Facebook, ses différents comptes, son ordinateur, éventuellement un journal intime, alors qui est plus sur un carnet, mais qui peut être également sur l'ordinateur. Et à ce moment-là, le commandant de la section de recherche va mettre une équipe sur chacune des hypothèses, avec une équipe technique transverse sur la police technique. Là, il y en a pas. Sur la téléphonie, sur tous les éléments qui peuvent nourrir l'enquête, et notamment sur ce que l'on appelle l'anacrime, c'est-à-dire l'analyse criminelle, qui permet dans les affaires qui sont complexes, soit par un grand nombre d'intervenants des réseaux, par exemple des réseaux criminels, ou par un grand nombre de témoignages, d'engranger en quelque sorte, mais de façon automatique, l'ensemble des éléments. Je vous donne un exemple très rapide. Vous avez quelqu'un qui dit « j'ai vu Monsieur X à tel endroit, à telle heure ». Un autre témoin, mais éventuellement 10 ans après, va vous dire « j'ai vu telle voiture, qui est la voiture de Monsieur X, pardon, mais le même jour, à 300 km de là ». Automatiquement, la machine va vous sortir soit la correspondance, si ça s'ajoute, soit l'incohérence, si ça se contredit.
On a le sentiment, peut-être que je résume, mais je veux votre analyse, que parfois il n'y a pas assez d'informations, parfois il y a trop d'informations, et que dans les deux cas, qui sont totalement opposés, ça complique forcément la tâche des enquêteurs. Est-ce que c'est le cas ou pas?
Oui, le trop d'informations tue l'information. Et puis, pas assez, ma foi, c'est vrai que... Voilà. Après, tout va dépendre de la manière dont les enquêteurs vont travailler. Et les magistrats. On a parfois, on a connu ça, et on en revient encore à cette affaire Le Landais, il y a quelques années, à 60 kilomètres d'écart, on avait deux juges d'instruction, un à Chambéry, un à Grenoble, et les informations ne croisaient pas. Ouais. Et il a fallu à un moment que par hasard, quelqu'un dise « mais vous cherchez une Audi A3, il y en a une à Grenoble ». Et c'est comme ça que c'est parti.
C'est ça.
Voilà. Maintenant, ça s'améliore. Les enquêteurs travaillent, sont mieux formés, les magistrats sont un peu plus sensibilisés à ça, mais il y a encore des dysfonctionnements, et je le constate régulièrement.
Mais il y a des outils, normalement. Encore faut-il qu'ils soient alimentés correctement.
Après, c'est vrai qu'il y a toujours, dans un second temps, la piste familiale, et en tout cas, toutes les relations passées des disparus qui sont fouillées. C'est pas toujours facile pour les gens, pour les familles et les victimes, de voir les enquêteurs éplucher leur vie à la recherche d'un éventuel, une éventuelle piste.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces enquêtes-là, le coût importe peu.
Oui. C'est la vérité qui compte.
C'est la vérité qui compte. Quand un enquêteur ou un magistrat vient dire « ça coûte trop cher, je ne le fais pas », c'est scandaleux et ça doit se combattre et c'est ce que l'on fait régulièrement.
Mais ce qui n'est pas, par exemple, pardon, je vous ai coupé, mais ce qui n'est pas du tout la démarche des anglo-saxons. Mmh. La police anglaise, les polices américaines ont des abacs, c'est-à-dire qu'ils ont une grille. J'ai un témoin, une croix. J'ai deux témoins, deux croix. J'ai un élément de police technique, de l'ADN, du sang. On fait le total et on a 43% des éléments nécessaires à la résolution de l'enquête, on y va. On a 39%, on n'y va pas, quelle que soit la gravité, quelle que soit l'émoi dans la société. C'est une démarche qui n'est pas une démarche latine, qui est complètement différente de notre culture, comme vous le disiez, maître, et de la façon de travailler des magistrats.
En espérant que cette démarche latine permettra de retrouver Agathe Hidéret, ou en tout cas de savoir ce qui s'est passé. Merci beaucoup, messieurs. Je ne dis pas merci à Jonas, qui va rester dans un instant pour évoquer ces lignes sordides qui pourraient s'ajouter à la liste des horreurs déjà commises par Dominique Pellicot, déjà condamné à 20 ans de prison pour le procès des viols de Mazan. Le père de famille est au cœur d'une nouvelle enquête pour le viol et le meurtre de Sophie Narme. C'était en 1991. Affaire suivante revient dans deux minutes. A tout de suite. Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. La liste des horreurs commises par Dominique Pellicot va-t-elle encore s'allonger? Le père de famille, condamné à 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme Gisèle par des dizaines d'hommes inconnus, est au cœur d'une nouvelle enquête. Depuis fin 2022, il est mis en examen, notamment pour le viol et le meurtre de Sophie Narme. L'exhumation de la jeune femme qu'il demandait a été refusée par la justice cette semaine. Conséquence, les questions restent extrêmement nombreuses. Pierre-Luc Bousset.
Ce devait être une visite d'appartement ordinaire. Sophie Narme, agente immobilière de 23 ans, avait prévu de faire visiter un bien situé rue Manin, dans le nord de Paris, à un potentiel client. Un guet-apens qui aura coûté la vie à la jeune femme le 4 décembre 1991. Sophie Narme est retrouvée morte dénudée dans l'appartement vide. Autour de son cou, une ceinture qui a servi à l'étrangler. L'autopsie révèle qu'elle a été droguée et violée. Les voisins ne se doutaient de rien.
On n'a rien entendu. Personne n'a rien entendu.
J'étais pas là de la journée, je suis parti le matin à 8h, je suis rentré dans la soirée et voilà quoi, la police est arrivée dans la nuit.
Aucune trace d'un potentiel suspect jusqu'à l'automne 2020. Dominique Pellicot est arrêté dans un supermarché de Carpentras pour avoir filmé sous les jupes des clientes. Les empreintes du septuagénaire qui livrait sa femme droguée et inconsciente à des inconnus ont permis aux enquêteurs de faire le lien avec le viol et le meurtre de Sophie Narme. Des faits pour lesquels Dominique Pellicot a été mis en examen et qu'il continue de nier. Une demande d'exhumation du corps de la victime a été rejetée par la justice cette semaine. Une autre affaire a attiré l'attention des autorités. En 1999, en pleine visite d'un bien en Seine-et-Marne, un homme tente de droguer et d'agresser sexuellement une agente immobilière. La victime se débat puis se libère. Sur sa chaussure, une tache de sang qui porte l'ADN de Dominique Pellicot. Ce dernier avoue les faits dans un premier temps, avant de finalement nier avoir eu l'intention de la violer.
Deux affaires et de nombreuses questions dont nous allons parler avec toujours Johanna, psychologue clinicienne et consultante, Johanna Rosenblum, pardon, consultante BFM TV. Nous accueillons également Anna Margherita. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes photojournaliste, vous avez suivi le procès Mazan. Quelle place ont pris ces deux affaires avec leurs questions, dans un procès dont on rappelle qu'il a été totalement hors norme et qu'il a marqué, j'allais dire les Français, mais pas seulement les Français.
Bien sûr. Alors la question des cold cases est revenue à plusieurs reprises au cours du procès, bien que le président rappelait que ce n'était pas les affaires qui concernaient le procès en cours. Mais cependant, il y a eu des questions par rapport au mode opératoire, notamment on retrouve toujours l'usage de la soumission chimique, que ce soit par le biais de médicaments ou par le biais de l'éther.
Là, c'est l'éther qui est évoqué dans ces deux cas.
Exactement. Donc on retrouve toujours ces mêmes éléments. On remarque aussi que Dominique Pellicot ne reconnaît pas les faits quand il n'est pas mis en face des preuves absolument irréfutables. Donc, beaucoup d'avocats de la défense ont essayé de le questionner pour creuser, pour savoir s'il pouvait y avoir des choses à obtenir de lui, ce qui n'a pas été le cas. Il s'est muré dans son silence comme la plupart du temps. Ouais.
C'est vrai que ce qui est vertigineux chez tous les dossiers Pellicot, au fond, c'est cette espèce de petit hasard. Parce qu'en réalité, il se fait attraper dans un Leclerc de Carpentras, à filmer sous les jupes de femmes, de trois femmes qui sont identifiées, ce qui va permettre aux enquêteurs de tirer un fil judiciaire. Et il y a un policier qui a l'idée d'aller perquisitionner chez lui. Alors, la perquisition initiale, elle donne rien, parce que, enfin, elle donne quand même des choses sur son téléphone, hein. Elle va pas donner les vidéos, parce que c'est Pellicot lui-même, dans un second temps, quand il va se rendre compte qu'il est coincé, qui va donner aux enquêteurs un disque dur qu'il n'avait pas trouvé dans la première perquisition, dans lequel il y a la fameuse affaire de Mazan avec les autres. Mais ce qui est frappant avec ces deux cold cases, c'est l'antériorité. C'est-à-dire, c'est 1991, il est mis en examen pour ça, il dit qu'il est innocent, mais c'est à quel point il a été muré. Johanna, aussi longtemps, comment on peut être bloqué à ce point, cacher ça ou pas pendant si longtemps ses proches?
Mais il n'a pas été bloqué, en fait. Il a bénéficié d'énormément de chances, comme beaucoup de prédateurs. C'est vrai qu'on rit de cette façon dont il s'est fait attraper au Leclerc, à filmer des jeunes femmes qui faisaient leurs courses. Mais pourquoi il fait ça?
Avec l'insistance d'un vigile qui, à un moment, ne le laisse pas partir, qui fait tout pour le retenir.
Il y a le vigile.
Encore une fois, on parlait parfois des enquêteurs. Mais là, c'est un vigile qui est à l'origine de ce procès hors norme dont on a beaucoup
parlé. C'est la plainte de la femme. Aussi,
évidemment, qui la pousse à aller. Évidemment.
Exactement.
C'est le rôle de vigile pour aller. Pour
c'est le point de départ, mais c'est encore une fois le symptôme d'un homme qui s'autorise tout. Et c'est vrai que quand on est face à ce type de personnalité, et je repense à la personnalité, autre sujet, du grand-père du petit Émile, on me disait souvent, depuis 20 mois, on découvre un homme qui était peut-être violent, en tout cas très rigide, très sévère avec sa famille. Mais ça fait pas 20 mois. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans.
On en parle,
mais 20 ans, voilà. 20 ans qu'il... Mais on découvre qu'Harry Aumont, alors qu'il était un tout jeune adulte, il était déjà un surveillant extrêmement violent physiquement, voire sexuellement. Donc c'est des hommes qui s'autorisent tout. C'est une construction psychique, c'est une personnalité qui s'autorise tout. De la manipulation, de la perversion, de la violence. Et ils bénéficient d'une chance qui fait qu'ils ne sont jamais rattrapés par leur délit ou par leur crime, et ils grandissent à la façon d'une boule de neige qui grandirait, ça les renforce, ils se narcissisent de plus en plus, et là il se fait attraper lâchement dans un supermarché, mais rien n'est étonnant dans cette histoire, parce qu'il n'a jamais été stoppé ni par la justice, ni par sa famille, ni même par sa conscience en réalité.
Est-ce qu'il s'est exprimé, Dominique Pellicot, sur ces deux affaires dont on sait qu'elles n'étaient pas au centre du procès de Mazan? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a refusé de parler, hein. Il a refusé de répondre la plupart du temps aux questions des avocats de la défense qui mentionnaient ces affaires-là en disant que ça ne concernait pas le dossier en cours. Mais j'ajouterais par rapport à Dominique Pellicot et tous les profils d'hommes violents que l'impunité dont ils bénéficient les encourage à continuer à agir. Et donc si la société leur permet de faire ce qu'ils font sans qu'ils soient condamnés, ce qui arrive pour la plupart des hommes violents malheureusement, ils se voient garantir leur impunité, ils se renforcent exactement. Jusqu'à ce que un homme comme Dominique Pellicot finira par dire il y avait presque un soulagement pour lui d'être arrêté parce que ça le dépassait et qu'il
c'est ce qu'il fait arrêter en fait.
Exactement.
L'arrestation le fait arrêter.
Oui, tout à fait. Et puis on sait même, pendant le procès, il y a eu des questions sur le fait que est-ce qu'il n'aurait pas cherché à ce qu'on découvre finalement ce disque dur, parce qu'il a agi avec une telle impunité pendant des décennies, peut-être beaucoup plus longtemps qu'on peut le penser, et au bout d'un moment, ça le dépassait. C'était trop, quoi.
C'est quand même un paradoxe. Ou alors, Johanna nous explique que ça n'en est pas un, mais à la fois, il se présente dans l'affaire dite de Mazan, des viols de sa femme avec des complices, comme quelqu'un qui va aider la justice, qui va tout raconter, qui est prêt à tout dire maintenant, à tout confesser, tout avouer. Et puis à la fois dans les deux cold cases, dont un où il y a son ADN, hein, il y en a un des deux, on est sûr que c'est lui. Alors là, il dit rien. Ouais. Donc pourquoi, dans un sens, il est dans une posture d'aider la justice, et puis dans un autre, il est alors là, au contraire.
C'est une très bonne question. De toute façon, c'est des personnes qui sont ambivalentes. Il y a tout un tas de procédés, de processus qui leur permettent de passer encore une fois entre les mailles du filet, parce que finalement, ils sont tellement sûrs d'eux, ils ont tellement une posture, si vous voulez, mise sur un piédestal, qu'ils se jouent un petit peu de la rhétorique, des discours, des différentes postures qu'ils vont prendre. Une fois, ils vont se tenir près de la justice, affable, suffisamment ouvert et conscient et capable de répondre aux questions. Et puis, dans un second temps, ça va être minimiser les faits. Oui, vous savez, mais moi aussi, dans l'enfance, j'ai connu des violences. Donc peut-être que je ne me rends pas bien compte, j'ai pas toutes les limites. Et puis, il peut y avoir aussi une autre étape d'inversion de la culpabilité. Non, mais vous savez, moi aussi, j'ai beaucoup souffert dans ma famille, auprès de ma femme. Elle me pousse à bout, finalement. Donc, si vous cherchez bien, je suis aussi un homme qui souffre. Donc, c'est tout un tas de stratagèmes qu'on connaît très bien, hein, finalement. On les connaît très bien, ces profils d'hommes-là. Ils n'avouent jamais, ils n'apportent jamais de réponse. Et si vous voulez, en faisant ça, en n'apportant pas les réponses, y compris à Caroline Darian, hein, qui veut savoir, qui est la fille, qui veut absolument savoir, qui a besoin pour se reconstruire, elle lui dit, fais ça pour m'aider, pour que je puisse me reconstruire, pour que je puisse survivre à mon histoire. Dis-moi ce qui s'est passé, ce que tu m'as fait. Eh bien, ces vérités-là, ils vont les refuser parce que c'est encore une fois une manière de garder le pouvoir, de garder le lead, si je puis dire.
Laurent, dans un instant, on reviendra sur les faits très précis, les terres, les chaussures qui font que, et l'ADN évidemment, qui font qu'on parle de Dominique Pellico dans ces deux cas. Mais j'ai une question plus personnelle avec vous qui êtes photojournaliste, c'est-à-dire que vous regardez les personnes que vous photographiez avec un œil qui est a priori pas celui que nous pourrions porter. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet homme, Dominique Pellico? Comment vous l'avez, vous, photographié? Comment vous l'avez ressenti? Parce qu'on parle d'horreur confirmée, on parle de doute sur d'autres choses qui sont aussi terribles, mais comment vous, dans l'œil d'un appareil photo, il ressort, cet homme-là? Qu'est-ce qui dégage?
Alors, j'ai malheureusement jamais pu photographier parce que, dans le cadre du procès...
Photographier, en tout cas, avec la rétine.
Ouais, il y a que nos confrères et consoeurs dessinateurs de presse qui ont pu le faire. Mais il affichait toujours une posture égale, en fait. On avait d'abord l'homme, parce qu'il a eu des problèmes de santé au début du procès, donc on avait l'image d'un homme un peu affaibli, un peu avachi sur son fauteuil, appuyé d'une canne. Et ça allait de pair aussi avec sa personnalité, parce que, comme vous le disiez, il pouvait arriver un jour en disant « je ne répondrai pas à vos questions, laissez-moi tranquille » et revenir le lendemain en demandant au président de s'excuser, en disant « je collaborerai, je participerai ». Donc il y avait une ambivalence dans sa personnalité, mais son visage restait toujours le même, très peu d'émotions, sauf quand il abordait son enfance et les viols qu'il dit avoir subis enfant, qui est selon lui la seule explication pour ce qu'il est devenu. Mais son visage, on a envie de percer un petit peu ce qu'il y a derrière ce visage qui restait toujours fermé et qui s'efforçait de contenir tout ce qu'on voit de mystère.
Et c'est précisément ce qui lui permet d'agir comme il agit. Hein. S'il avait un minimum d'empathie, s'il avait conscience des souffrances qu'il inflige et à sa famille, parce qu'en fait, la souffrance, c'est une onde de choc. C'est Gisèle Pellico, c'est ses enfants, c'est les petits-enfants, c'est l'entourage, c'est toute cette confiance qui a été brisée, c'est tout le mal qui a été fait. S'il avait conscience de tout cela, s'il avait cette empathie que nous avons tous en nous et qui nous permet de voir qu'on fait souffrir l'autre pour se stopper, il n'aurait pas commis tout ce qu'il a été capable de commettre.
Oui. En revanche, Anna, vous avez beaucoup photographié la famille, puisqu'elle était, était là tous les jours au tribunal. Est-ce que vous avez perçu ce passage d'une famille soudée, Gisèle et ses trois enfants qui arrivent ensemble, et puis on le découvre un peu aujourd'hui, on le découvre notamment cette semaine, une famille qui sort de ce procès brisée. Est-ce que ça, vous l'avez vu, pour reprendre l'expression de Ronald, dans l'œil de votre objectif?
Alors, je pense pas l'avoir vu de façon aussi claire parce que j'ai surtout vu Gisèle presque tous les jours, Gisèle Pellico, arriver au tribunal. Je l'ai vu beaucoup entourée de ses soutiens qui étaient des féministes qui venaient pour l'applaudir. Je l'ai vu toujours entourée, en tout cas, de soutien. Et je l'ai toujours vu faire preuve d'empathie et beaucoup de bienveillance envers ses soutiens, en prenant le temps d'aller les remercier, etc. Donc, j'ai surtout pu observer la détermination de Gisèle Pellico elle aurait le droit de pleurer, de s'effondrer. On n'en attendrait pas. En tant que victime, elle en aurait le droit, mais elle a décidé de garder, en tout cas, elle est parvenue à garder cette posture, et c'est ça qui m'a le plus...
Avec ses enfants, on sent bien que quand même ce procès a été...
Ah bah, l'ampleur de cette violence ne peut que briser une famille, évidemment. Et il y a aussi la limite de ce qu'on peut savoir, de ce qu'on ne sait pas, ce qui relève de la sphère privée et ce qui devient public, car il s'agit de crimes qui concernent la société.
Mais Johanna n'aurait pu penser que la famille et les enfants, la mère et les enfants, ressortent un peu soudés de cette épreuve commune, alors qu'en réalité, on voit bien que ça a l'air d'être l'inverse.
Oui, mais c'est parce que, Laurent, il y a une épreuve collective, c'est-à-dire les enfants qui entourent leur mère face à l'épreuve, et il y a aussi des histoires individuelles. Il y a l'histoire de Caroline.
Il y a le côté global et la division interne.
Il y a chacun avec leur histoire, chacun leur histoire avec leur père. Ils ont à faire face à quelque chose d'extrêmement difficile, et j'écoutais Caroline Darian qui l'expliquait très très bien. La fille de Gisèle Pellico. Elle découvre un visage d'un père, et elle a à la fois les souvenirs d'un père dont elle était très très proche. Ils valent quoi, ces souvenirs, aujourd'hui? Elle a un fils, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Il y a eu une vie de famille, comme on connaît tous. On laisse nos petits-enfants, nos enfants, aux grands-parents, des week-ends, des vacances. Il y a cette confrontation entre ces bons souvenirs et cette réalité qui fait effraction. Et chacun, individuellement, a aussi une histoire avec cet homme-là. Et ça, ça brise une famille parce qu'on peut se sentir incompris, on peut se sentir attaqué par le reste de la fratrie, pas juger tous, pas considérer tous de la même manière, et c'est extrêmement violent.
Laurent, pour terminer, je vois qu'on revienne sur ces deux affaires dont on parlait. L'affaire Marion, ce n'est pas son prénom, on l'appelle l'affaire Marion, et l'affaire Sophie Narme. ADN retrouvé sur la scène de viol et l'agression de Marion, qui dit il y avait des gestes très particuliers avec l'ADN de Dominique Pellico, qui renvoie au meurtre assez sauvage et au viol de Sophie Narme. Et la dernière information, 21 mars dernier, l'avocat de Dominique Pellico, à la demande de Dominique Pellico, demande l'exhumation parce que lui dit c'est pas moi. Et pour autant, il y a des éléments très troublants qui ressemblent à la première scène où son ADN a été trouvé. Et sur cette scène-là, est-ce qu'on va travailler dans le sens d'une inculpation et d'une accusation culpabilité reconnue de Dominique Pellico? Alors, qu'est-ce qui va se passer?
En fait, il y a une illusion d'optique. Le sujet, parce qu'il y a eu l'affaire de Mazan, mais sans l'affaire de Mazan, c'est une juge parisienne, Nathalie Turquet, qui est la juge d'une des trois juges du pôle Colcaise,
de Nanterre,
qui avait découvert Dominique Pellico et les deux Colcaises avant, deux ans avant. C'est resté cloisonné. On a découvert, nous, dans le public, au cours du procès de Mazan, que cette affaire existait. Mais c'est la juge Turquet toute seule qui, en reprenant ces deux vieux Colcaises, celui de 91. Alors, c'est vrai que la juge, elle joue la justice dans cette affaire, à la fois joue de malchance et un peu d'incompétence, parce que en 91, des scellés se sont perdus. L'autopsie de Sophie Narme fait état de présence de sperme, donc de viol.
Et qui ont disparu.
Et puis ça a été complètement disparu. 10 ans plus tard, les scellés de Sophie Narme, c'est-à-dire son pull, sa ceinture avec laquelle elle a été étranglée, tout ça a disparu. La justice est toujours en train de les rechercher. Et puis, il a fallu 10 ans pour que l'ADN de Dominique Pellico, retrouvé sur une chaussure de Marion en 99, match avec un ADN qui avait été prélevé de Dominique Pellico en 2010 déjà. En réalité, tout ça, c'est une somme de dysfonctionnements judiciaires sur lequel il faudra un jour que le ministère de la Justice s'explique, qui fait qu'on le sait, Nathalie Turquet l'a établi, Dominique Pellico aurait dû être arrêté en novembre 2011, c'est-à-dire avant que les viols de Mazan ne commencent.
Et nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Merci, mesdames, d'avoir été sur le plateau pour évoquer le cas de Dominique Pellico et ces questions qui restent en suspens. Merci beaucoup. L'invité de la semaine. Il a été le patron de la prestigieuse BRI. Il est actuellement directeur de la Brigade de protection des mineurs de Paris. C'est Christophe Molmy. Bonjour. Je vous laisse vous installer tranquillement. Vous publiez un nouveau roman. Son titre, Comme un papillon, c'est un roman noir qui explore toutes les facettes d'une même histoire, celle d'un violeur qui pensait qu'il ne pouvait pas tomber. Bonjour Christophe Molmy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir avec Laurent Valdiguier. Quatrième roman pour vous.
Cinquième.
Ah bah écoutez, j'ai mal fait mon travail. Ça commence bien. En fait, c'est la précision. Là, c'est la précision du flic. Pourquoi cette histoire? On va venir dans le détail. Pourquoi vous avez choisi cette histoire? Alors, on verra la façon dont vous l'avez raconté après, mais comment ça vous est venu?
Cette histoire est une fiction. Alors, en tant qu'auteur, ça m'intéressait d'écrire sur un phénomène de société. Et en particulier, ce qu'induisent les réseaux sociaux, ça a complètement bouleversé, vous le savez, bien évidemment, les rapports humains. Imaginez qu'il y a 20 ans ou 30 ans, je vous ai dit que j'allais inventer une application, on allait rencontrer des femmes comme ça ou des hommes pour les femmes.
Vous aurez rayonné.
Et vous auriez rigolé, vous auriez trouvé ça complètement fou, et ça se fait. Alors, j'ai pas de jugement là-dessus, mais ça induit parfois des mises en danger. Et puis là-dessus, évidemment, il y a eu aussi MeToo, toutes les affaires médiatiques dont vous parlez souvent, qui ont remis en question, et c'est heureux, la notion du consentement, la vision de l'homme sur la femme. Voilà, donc c'était tout ça que je voulais explorer dans ce roman.
Avant que Laurent vous pose, est-ce que vous avez écouté le plateau précédent ?
Non.
Parce que j'avais l'impression, quand Johanna parlait de la façon dont certains hommes se comportaient et se sentaient au-dessus des lois, c'est exactement ce qui arrive à ce Mathieu Escura, c'est-à-dire qu'il se sent complètement intouchable. On ne sait même pas s'il a le sentiment lui-même qu'il fait du mal. Et il y a cette espèce de vous nous remettez dans son cerveau, vous nous mettez dans la tête aussi du psychiatre, de la femme, ce qui est extrêmement intéressant.
Alors il a raté un train lui. Il a pas vu que la société a changé. Il continue à pas se poser de questions. Et le roman s'ouvre sur la même scène en fait vécue par cet homme et par une femme qu'il rencontre. Et ils vivent pas du tout la même chose parce que lui il vit un très bon moment et elle est agressée, elle est violée. Et ce qui m'intéressait pour l'ouverture de ce roman en particulier, c'est le ressenti parce que c'est pas parce qu'une femme ne dit pas non que nécessairement elle est d'accord. Et elle peut être silencieuse et être sidérée. Donc, on voit ça souvent dans les enquêtes. Donc, je voulais mettre ça en scène. Et puis ensuite, dans cette histoire, il y a une seconde histoire et une troisième dans la seconde, puisque c'est un thriller, mais ça, c'est le début. Ouais.
Comment vous résumez ça?
Oui, c'est vrai que ça commence comme un roman de garde, quelqu'un qui n'a pas compris son époque, qui est assez content de lui et qui... Alors, ce qui m'a plu d'entrée... Parce que c'est quand même un livre de flic. C'est aussi, vous êtes un flic, vous êtes un policier. Donc, vous n'êtes pas juste romancier. Mais le point de départ, c'est ce toboggan, c'est-à-dire cette bascule dans la vie de quelqu'un. Alors, qu'en tant que flic, vous connaissez bien cette garde à vue, c'est-à-dire le moment où vous voyez quelqu'un qui est en train de réaliser que, dans la minute, sa vie sera plus jamais comme avant. C'est ça que vous décrivez bien.
Plus que dans les autres romans, j'ai voulu aussi pas jouer avec le lecteur, mais lui provoquer des émotions. C'est-à-dire que tour à tour, il peut être un peu empathique pour cet homme, presque le plaindre à un moment. Et puis après, il est marqué d'effroi. Donc en effet, cet homme, il passe dans une sorte de machine à laver et il comprend pas au début. Et en plus, il a une quête personnelle qui se greffe à la situation judiciaire.
Mais ça, vous le voyez souvent chez les gens. Indépendamment de votre
quand ce sont
de
pas des voyous, ouais.
Vous voyez souvent ces gens arriver dans la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie et puis à la fois pas se rendre compte et puis tout d'un coup devant vous s'effondrer, non?
C'est une machine judiciaire, ouais. En effet, puis qu'il a broie là en l'occurrence. Mais il est pas habitué à ça, lui. Comme je dis, c'est pas un voyou, c'est un prof de fac. Il a même pas l'idée de se retrouver un jour en garde à vue. Encore une fois, il se pose pas de questions, lui. Hein, donc ce qu'il fait naturel.
Et puis là, sa vie s'effondre.
Et sa vie s'effondre, sa vie personnelle aussi, puisque il est marié. Donc sa femme goûte assez peu ses relations extra-conjugales. Il a des enfants, il a un travail. Voilà, tout explose. Hein.
Comment vous vous êtes mis parce que ce que je dis, ce qui m'a moins particulièrement, ce que j'ai retenu, c'est le fait de voir plusieurs facettes de la même histoire. Alors tout au début, mais tout au long, on est vraiment dans la tête des protagonistes. Comment vous vous êtes mis dans la tête de la psychologue, de la femme, de la mère? Comment vous êtes passé dans chaque tête? Parce qu'on a l'impression parfois qu'on passe d'une tête à l'autre et que tout est très juste et tout paraît très logique. Mais nous, on le voit en tant que lecteur. Mais comment vous vous êtes mis en tant qu'écrivain là-dedans?
Parfois, c'est difficile, mais c'est ça qui était aussi jouissif dans ce roman. Le premier, c'était que j'avais écrit, Allez vous blesser, c'est un roman qui était
le
très proche.
Le premier des cinq, vous voulez dire?
Les des cinq, absolument. Il était très proche de mon métier. Mm-hmm. Et j'ai voulu, avec le temps, m'éloigner du piquet. Et là, c'est vraiment fictionnel. Donc, il a fallu que je fasse un effort de recherche. J'ai demandé des conseils à une psy clinicienne aussi. Et j'ai passé du temps, j'ai mis plus longtemps à l'écrire, effectivement, pour me mettre dans la tête. Alors, pour un homme, se mettre dans la tête d'une femme, c'est intéressant.
Ouais. Vous avez appris des choses que vous pourriez retranscrire dans votre autre métier, pas celui d'écrivain. On progresse toujours des expériences qui nous nourrissent. Est-ce que ça peut aussi vous servir dans l'autre sens?
Je sais pas. En tout cas, j'ai pris le temps de me mettre effectivement dans les bottes d'une femme. Alors en plus, ça vous a pas échappé si vous l'avez lu jusqu'au bout, c'est qu'il y a une vraie énigme. Donc
bon, alors on va pas dire la fin parce que
mais j'ai vraiment pris du soin à construire ça. Et les personnages servent ce but-là. Je pense même qu'il est utile peut-être de le relire une deuxième fois parce que moi, en le recorrigeant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses trappes. Voilà. Mais se mettre dans la tête d'une femme, c'est intéressant. Se mettre dans la tête d'une femme en étant un homme de plus de 50 ans aujourd'hui, c'est intéressant. Mmh. Ça peut-être que d'un point de vue intime, c'était peut-être votre question, ça oblige à se poser des questions.
C'est un peu ça aussi, c'est-à-dire comment on passe, effectivement, quand on doit écrire coucher les pensées d'une femme dans cette époque et avec la prise de conscience générale, c'est comment soi-même on se projette quand on doit coucher sur le papier.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de policier dans votre...
Pas un polar, c'est un roman psychologique.
Mais l'autre, alors peut-être c'est votre expérience de policier aussi ça, c'est que finalement, dans votre livre, personne n'est ni tout blanc ni tout noir. Il y a une espèce de mélange.
Je l'ai noté,
ils sont tous un peu sympathiques et puis pas sympathiques. Enfin, il y a un mélange de tout. Ça, c'est votre vie de policier qui vous fait dire ça sur la nature humaine.
Non, mais en tant qu'auteur, voilà. Moi, je veux rester sur le fil. Je donne pas de leçons. Je veux pas influencer qui que ce soit. J'ai une lectrice l'autre jour qui m'a dit, j'ai été gêné, j'ai été embêté parce que par moments, j'avais de l'empathie pour ce personnage. C'est intéressant quand on est auteur d'entendre ça. Oui. Donc, non, je voulais rester très neutre, moi, et laisser le lecteur à son sentiment par rapport à ces personnages qui sont à la fois complexes et très banaux, en fait.
Et alors, est-ce que c'est aussi votre expérience de policier, les enquêtes? J'essaie de vous amener à ça pour que vous nous expliquiez un peu comment le chaudron du commissariat, l'endroit où nous, on n'est jamais. Mais c'est vrai que vous donnez quand même une importance au second rôle. C'est un peu comme si finalement dans une enquête policière, on sait bien tout compte, tout le témoignage. Ouais. Vous avez un gardien d'immeuble qui est pas sympathique du tout, qui prend les gens en photo à leur insu, etc. Sa femme l'a quitté, etc. Mais lui aussi il compte dans votre livre. Est-ce que c'est ça aussi, cette importance de tout le monde?
Oui. D'une part, je veux pas être manichéen, comme vous l'avez souligné, et puis être le plus réaliste possible. Et être réaliste, ça veut dire aussi faire voir des pans d'une enquête criminelle. Mais aussi des personnages qui troublent un peu l'histoire aussi, hein, qui complexifient un peu l'intrigue. Mais tous ces petits personnages construisent aussi l'histoire et donnent de la chair à cette affaire.
Je vais absolument pas évidemment relever la fin que nos téléspectateurs découvriront, mais est-ce que vous avez envisagé, et peut-être qu'ils comprendront la question s'ils le lisent, mais est-ce que vous avez envisagé une autre fin? Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités que celles que vous avez écrites et que vous avez publiées?
Alors c'est intéressant, mais oui, en fait, c'était pas la fin initiale.
D'accord.
Mais un roman, quand vous l'écrivez, vous avez un synopsis, mais il vit aussi. Les personnages finissent par vivre, vous dépassez parfois, et l'histoire mute, et elle a légèrement muté à la fin. Ouais.
D'accord, on verra si les téléspectateurs reviennent vers nous en disant, tiens, j'avais imaginé autre chose.
Le juge Alphen, qui fait aussi des livres, il dit qu'il commence, et puis il sait pas comment ça va se terminer. Vous saviez au début?
Non. Oui, non, moi j'ai besoin, encore une fois, d'un synopsis. D'abord, il me faut du temps pour écrire, puis c'est pas mon occupation principale. Donc il me faut un guide de façon à pas me perdre. Et il y a des auteurs effectivement qui écrivent un peu à l'aveugle. Il y a deux méthodes, mais ça j'ai un peu de mal moi.
Je ne vous mets pas à la retraite, mais ce sera ma dernière question. Vous êtes encore flic.
Ah oui.
Un poste très 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 important et très compliqué. Est-ce qu'à un moment vous vous dites le jour où ça s'arrête, je ne ferai plus qu'écrire, ou est-ce que c'est les deux en même temps et c'est ce qui vous plaît?
Ah bah de toute façon pour l'instant la question se pose pas.
Exactement.
C'est les deux en même temps. Ouais. À la rigueur je peux arrêter d'écrire mais pas mon métier, mais pour la suite oui, bah si ça continue et que il y a des lecteurs au rendez-vous, je serais ravi de continuer à écrire bien sûr.
Comme un papillon, Christophe Molly. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Pour évoquer
merci beaucoup.
Ce roman pas sur cinquième roman. extrêmement merci beaucoup Laurent, c'est un plaisir. Affaire suivante revient évidemment la semaine prochaine, ce sera avec Dominique. Bon dimanche.